Et bien maintenant, je vous présente Gilles Domenech, donc avec grand plaisir, qui va vous parler des cycles du carbone en maraîchage, entre autres.
Merci beaucoup, Caroline. Donc avant de commencer, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout le travail que j'ai réalisé depuis peut-être 2004 sur les BRF, depuis 2006 avec Arbre et Paysage 32, depuis 2008 avec Caroline, avec Konrad Schreiber et d'autres personnes, d'abord sur le BRF, sur le sol vivant, sur l'agriculture de conservation, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ça prend un peu tout son sens. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui émerge. Là, cette initiative qu'on a prise à trois, je dirais, en imaginant qu'on serait peut-être 50, 100 personnes aujourd'hui, et qu'on aurait pu être 400 si on n'avait pas bloqué les inscriptions, je pense, au moins 350, je pense. C'est assez surprenant, assez touchant. Et voilà, je pense qu'on est au début d'une grande aventure, tous ensemble, avec sûrement beaucoup d'autres. Voilà, donc je me sens très honoré d'être ici aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous parler de flux de carbone, d'aggradation et de maraîchage sur sol vivant. Alors tout d'abord, je vais vous parler un tout petit peu de vie des sols, de façon très brève. Donc un sol vivant, voici par exemple un exemple de sol sous forêt, structuré par la vie du sol. On voit des structures, des agrégats plutôt arrondis, qui sont vraiment créés par l'activité biologique du sol, entre autres par les vers de terre, comme ici, par les champignons aussi, qui stabilisent tout ça. Voici un autre exemple de sol qui a une belle activité biologique, donc de sol cultivé cette fois. Donc là, on voit un sol avec différentes pratiques qu'on va voir tout au long de la journée, des couverts végétaux, des amendements sous forme de BRF, des résidus de culture qui ont été ramenés au sol, etc. Et donc les organismes du sol, très brièvement, qui sont-ils? Donc on a des bactéries qui forment l'essentiel, sont des milliards et des milliards par gramme de sol, et qui sont capables de réaliser à peu près toutes les fonctions biologiques qui existent à la surface de la Terre. Les champignons, qui sont en général présents sous forme de filaments microscopiques. La plupart du temps, on ne les voit pas. On peut les sentir à l'odeur, mais on ne les voit pas la plupart du temps. On voit que ceux qui ont un mycélium, donc des filaments assez gros. Et puis, quand ces mycéliums fusionnent pour former ces fructifications, donc il n'y a qu'une petite partie des champignons qui fait cela. Et les champignons aussi donc sont parmi les micro-organismes du sol aussi. Ils ont un grand nombre de rôles essentiels dans la décomposition des matières organiques, dans la symbiose avec les plantes, etc. Et puis après, vous avez toutes sortes d'animaux du sol, depuis des animaux microscopiques, comme ce ver microscopique qu'on appelle un nématode, comme ce colambole qui a une taille de l'ordre du millimètre, ou des plus gros comme les vers de terre, ou on pourrait citer les limaces, les mille-pattes, etc. Alors maintenant, cette vie des sols, quel est l'intérêt pour l'agriculteur d'avoir un sol vivant? Est-ce que c'est juste de la conservation pour une conscience écologique, meilleure conscience écologique, ou est-ce que vraiment, agronomiquement parlant, il a intérêt à le faire? Mais la réponse est oui. Il y a un certain nombre de rôles qui sont réalisés par la vie du sol. Donc là, tout d'abord, la transformation des matières organiques, tous les amendements organiques qu'on amène au sol, tous les résidus qui tombent au sol, tous les excréments qui arrivent au sol, tous les cadavres qui arrivent au sol, ne sont transformés que parce qu'il y a la vie du sol pour le faire. Sans la vie du sol, il n'y aurait aucune transformation de ces matières organiques. Que ce soit pour former de l'humus ou que ce soit pour libérer les nutriments qu'ils contiennent. La structuration du sol, donc là, la vie du sol, que ce soit au niveau microbien ou au niveau de la faune, a un rôle essentiel dans la structuration du sol. On connaît bien sûr les vers de terre qui vont creuser toutes ces galeries, qui vont permettre de drainer quelque part le sol, donc de faciliter notamment l'infiltration de l'eau. Et puis on a en surface donc l'activité de toute une faune de surface qui va brasser, faire un peu de microbrassage en surface, et des micro-organismes, des champignons et des bactéries qui vont stabiliser tout ça en sécrétant des cols, qui vont stabiliser cette structure. Et puis un troisième point, c'est la gestion des nutriments. On a des bactéries qui savent utiliser l'azote de l'air, donc ça nous économise des fertilisants. Aux alentours des racines, on a au voisinage immédiat des racines, on a des bactéries qui vont se nourrir par exemple de sécrétions rejetées par les racines pour aller chercher de l'azote qui va être ensuite disponible pour les plantes, de l'azote ou du phosphore ou du fer, peu importe. Voilà, donc la vie d'un sol vivant permet aussi de mettre plus facilement les nutriments à disposition des plantes. Du coup, tout ça réduit la nécessité d'amener des fertilisants. Voilà, donc maintenant, comment cultiver avec la vie du sol? Donc, il y a deux grands axes de réflexion: réduire les perturbations et nourrir ces organismes. Alors, pour nourrir ces organismes, comment faire? On va s'inspirer là des cycles de l'énergie ou du carbone au niveau de l'écosystème, d'un écosystème quel qu'il soit, terrestre en tout cas. Dans les océans, ce serait un peu différent. Mais sur Terre, on a l'énergie solaire qui est fixée par les plantes. Les plantes donc, fixent cette énergie, fixent le carbone de l'atmosphère, font avec tout ça la matière organique, donc dans laquelle est stockée à la fois de l'énergie qui vient du soleil et donc du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et d'autres éléments qui viennent de l'air ou éventuellement un peu du sol. Et ensuite, ce carbone, cette énergie, est renvoyée au sol par trois processus. Le premier, c'est la litière de surface. C'est tous les résidus qui tombent sur le sol. La chute des feuilles en forêt, ça peut être un paillage, ça peut être aussi un animal qui va mourir là-dessus aussi, pourquoi pas, hein, même s'il a brouté les feuilles et qui est venu mourir en surface, voilà. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est quand même essentiellement les tissus aériens des végétaux, les tiges, les feuilles, les fleurs, aussi les fruits qui viennent pourrir la surface du sol. Un deuxième flux qui ramène donc le carbone dans la terre, c'est la litière souterraine, c'est-à-dire la décomposition des racines. Alors les racines se décomposent soit à la mort de la plante, soit aussi à la chute des racines les plus fines, hein, parce qu'on a, donc les agroforestiers insistent beaucoup dessus, on a tous les ans, même trois fois par an, on a les racines les plus fines qui meurent, et l'arbre continue à vivre, mais les racines meurent et sont décomposées dans le sol. Donc c'est un flux plus discret, moins connu, mais aussi très important. Et un autre qui peut être aussi extrêmement important, et qui est encore plus discret que le précédent, parce que là on ne le voit pas du tout, c'est ce qu'on appelle la rhizodéposition, c'est-à-dire la sécrétion par les racines de composés organiques qui vont nourrir directement la vie du sol. Donc voilà, c'est essentiellement, c'est majoritairement par ces trois flux. Alors on pourrait citer aussi les animaux herbivores, ensuite, qui, par leur digestion, qui viennent enrichir la litière de surface, mais ces flux sont anecdotiques, sont beaucoup plus faibles que ces trois-là. C'est vraiment les trois principaux dans la plupart des écosystèmes terrestres. Qu'ils soient cultivés ou non. Voilà, donc là, je vous propose de zoomer un peu sur la litière de surface. Voilà, donc, si on piétine un champ de blé, voici ce qui se passe. Là, on a une jolie litière de paille. On va regarder un petit peu les quantités, les quantités de carbone, enfin de matière organique plutôt, qui sont envoyées au sol. Donc la matière organique, c'est à peu près 70% de carbone. Donc si on prend des céréales d'hiver, on peut avoir 4 à 6 tonnes, même en moyenne, disons 6 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Avec des graminées tropicales, on peut monter beaucoup plus haut, jusqu'à 20 tonnes. Avec des oléagineux, oui, là j'avais des chiffres qui donnent 0,6 à 1,2, mais j'en ai trouvé qui étaient un peu supérieurs. Et si on compare ça en maraîchage, on se rend compte qu'on est dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'en grande culture, puisque sur des légumes racines, on va avoir 0 litière de surface et même quasiment 0 litière souterraine, puisqu'on va en plus prélever la racine. Dans le cas des légumes feuilles tels que les salades, par exemple, les épinards, on va avoir quasiment 0 résidu en surface, vu qu'on récolte quasiment toute la partie aérienne. Dans certains cas, comme les choux, on peut avoir quand même une petite litière de surface, mais ça reste quand même assez faible. Et même pour des légumes fruits, on pourrait penser que des légumes fruits, on en restitue beaucoup. Alors c'est vrai qu'on s'en serait sur un pois ou sur une fève, effectivement, pour avoir, je pense, on pourrait sûrement monter à 2-3 tonnes, voire plus, de matière sèche à l'hectare. Alors là, les chiffres sont très difficiles à avoir, parce qu'en fait, tous ces chiffres-là, on les obtient grâce aux études qui ont été faites sur les biocarburants de deuxième génération. Hein, c'est pas des études qui ont été faites pour s'intéresser à ce qui revient au sol, c'est qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour faire des biocarburants avec. Donc tous les chiffres que j'ai là viennent de ces études-là. J'en ai pas trouvé ailleurs. Et alors sur les tomates, alors ça c'est un chiffre qui vient du Languedoc-Roussillon. Tomate de plein champ, on sera à 0,2 tonnes de matière sèche par hectare et par an. On pourrait penser que la tomate, quand même, ça ramène de la matière organique. Eh bien, c'est vraiment pas grand-chose. En serre, évidemment, on serait sûrement à beaucoup plus, mais là, j'ai pas les chiffres. Et puis, tout ce qui est, j'ai pas réussi à trouver les chiffres sur ce qui est courge, melon, tout ça. Mais à mon avis, c'est guère plus que ça, parce que c'est surtout de l'eau qu'il y a dedans, donc on a très peu de matière sèche. Voilà, donc si on compare, si on rassemble tout ça dans un graphique, donc là, une compilation de différents chiffres. Bon, ben le maraîchage, quand même, on est assez mal loti au niveau de la litière de surface. Et les deux autres flux sont quand même corrélés. Hein, donc, on se rend compte que du simple fait de la culture, on a très très peu de flux en maraîchage. Donc, il va falloir arriver à gérer ça. Et ce n'est pas forcément le plus simple. Voilà, donc, et puis on peut voir aussi, là, il y a certaines plantes qui peuvent entrer dans des productions maraîchères, notamment un maïs doux. Là, on voit sur ce graphique-là que ça peut être très, très intéressant de faire entrer des plantes comme un maïs doux qui peuvent faire énormément de biomasse et qui vont nous ramener énormément de matière organique. Ce sera à la fois une culture et à la fois une plante qui va fertiliser le sol. J'en viens maintenant aux trois grands axes techniques que l'on va mettre en œuvre pour avoir une agriculture agradante. Donc, agradation, c'est le contraire de dégradation. C'est un terme qui a été inventé par les Canadiens qui ont travaillé sur le BRF. Donc, les trois piliers de la gradation. Tout d'abord, donc, je disais, donc, respecter l'habitat des sols, le perturber le moins possible. Alors, on ne voit pas très bien. Donc, c'est la réduction du travail du sol. L'apport de matière organique, bien sûr. C'est souvent ce à quoi on pense en premier. On manque de matière organique, donc on va en ramener. Alors, c'est vrai que quand on est en grande culture, on est limité. Là, pour le coup, en maraîchage, ce sera plus facile. On est sur des plus petites surfaces. Ce sera beaucoup plus facile d'amener de grosses quantités de matière organique. Et le troisième pilier, ce sera la production de biomasse dans la parcelle. J'ai évoqué à l'instant la possibilité de produire de la biomasse en culture, en produisant par exemple du maïs doux. Mais on verra qu'il y a bien d'autres manières de le faire. Je vais les évoquer là, et puis bien sûr, les collègues vont développer ces thèmes-là par la suite. Donc voilà, donc le premier point, donc réduire, voire supprimer le travail du sol. Donc là, c'est une image qui vient de grandes cultures. En maraîchage, pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup. Pourtant, il y en a. Ils sont quelque part, ça et là. Je ne sais pas s'il y en a peut-être dans la salle qui font déjà du semi-direct en maraîchage. Mais je crois qu'il y en a quelques-uns. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile de savoir qui le fait parce qu'il n'y a pas encore vraiment de réseau. Alors qu'en grande culture, on est quand même bien avancé sur la question et on commence à avoir de gros réseaux un peu partout en France qui commencent à étudier le semi-direct. Donc là, c'est tout bêtement un semi de blé dans un champ de maïs. Voilà, directement, sans aucun travail préalable. Bien sûr, réaliser des apports de matière organique. Donc là, ça peut être aussi bien par des paillages que par des amendements. Donc là, deux mots sur la différence entre les deux. Donc un paillage au sens strict, ça va vraiment servir à limiter l'évaporation de l'eau, à limiter l'enherbement et à être le plus durable possible parce qu'on n'a pas envie d'en remettre tout le temps. Un amendement, ça va modifier les propriétés du sol. Donc du coup, un paillage organique, en général, il est au moins autant amendement que paillage. Et parfois même plus amendement que paillage. Je pense par exemple à un paillage de foin. Finalement, c'est quelque chose qui est bon, ça aide à garder l'eau, mais c'est pas forcément très efficace contre l'enherbement et c'est pas durable du tout. Donc, par contre, ça a un effet amendement sur le sol qui est absolument extraordinaire. Donc, du coup, un paillage de foin est plus un amendement qu'un paillage à l'arrivée. Donc, c'est plus c'est la thématique paillage-amendement. Donc, je rentre pas trop dans les détails, mais c'est clair que c'est essentiel. Et puis, la deuxième manière, c'est créer la biomasse in situ. Donc soit en restituant les résidus de culture, mais ça, on se rend compte qu'en maraîchage, on va quand même être très très limité à ce niveau-là. Ou ça peut être par découvert végétaux. Donc là encore, cette photo vient de grandes cultures, mais on verra que pour le maraîchage, il y a aussi de grandes pistes à étudier au niveau des couverts végétaux. Et sachant que ces couverts végétaux, ça peut être des couverts annuels, comme on voit là. Là, c'est un trèfle incarnat, en plus c'est très joli. Enfin, moi j'adore. Mais ça peut être, pourquoi pas, des arbres. Finalement, l'agroforesterie, c'est quelque part, c'est un couvert associé, pérenne, au sein de la parcelle. Donc, c'est aussi une forme de couvert végétaux. Voilà, donc les défis du maraîchage sur sol vivant. Donc là, je vais reprendre les différents thèmes. Donc, je vais un peu vous y présenter du coup les ateliers aussi de l'après-midi, puisqu'ils reprennent ces thèmes de réflexion, qui émergent des discussions qu'on a eues pour ceux qui sont sur le Google Group, qu'on a eues au sein de ce groupe. Et puis aussi par ailleurs lors de rencontres, etc. Donc voilà, on a ce schéma-là. Donc comment on va stimuler ces trois flux? Comment on va stimuler la photosynthèse d'une part, et surtout comment on va stimuler le retour de ces flux de matière, de carbone et donc d'énergie vers le sol. Donc voilà. Donc là la photo, ça vient. Je pense qu'il se reconnaît celui qui est sur la photo, celui dont l'exploitation est sur la photo. Donc là, un magnifique exemple d'amendement paillage. Là, c'est clair que ce paillage de paille, il joue à la fois les deux rôles, clairement. Donc là aussi, en maraîchage, on a un gros potentiel là-dessus parce qu'on est sur des petites surfaces. Donc on peut se permettre d'amener des quantités de matière organique que ne peuvent pas se permettre les céréaliers. Donc voilà, sur un hectare, on peut amener un paillage de 10 cm de paille. sur 100 hectares de blé, c'est plus difficile. Les couverts végétaux, donc là avec une magnifique fleur de facélie, qui a été prise au même endroit d'ailleurs. Et donc là aussi, on a toute une gamme de plantes qui peuvent entrer donc soit en interculture, dans des couverts végétaux, donc soit qui peuvent être des intercultures, donc des entre deux cultures, hop, au lieu de laisser la terre à nu, on implante une culture. Soit ça peut être des couverts associés, c'est-à-dire qu'on met un couvert végétal et la culture cultivée en même temps. Soit ça peut être carrément donc des vivaces, donc pourquoi pas. Il y a des gens qui font des trucs avec des allées de consoude, par exemple, dans les exploitations maraîchères, ou des arbres. Voilà. Donc là aussi, ce sera un des grands thèmes de la journée. D'ailleurs, je l'ai pas noté. Au niveau de la culture, on peut intensifier les rotations. Hein, donc soit avoir, au lieu d'avoir 2-3 cultures sur une parcelle, soit associer différents légumes avec différentes propriétés, différentes plantes, ou associer un couvert aussi et une culture, et éventuellement carrément installer des cultures dans une autre culture pas encore récoltée. On a un spécialiste ici. Et un autre exemple, c'est l'agroforesterie. Alors j'aime bien cette photo, bon, elle vient pas d'ici, hein, elle vient du Maroc, mais c'est assez intéressant de voir ces systèmes dans un climat semi-aride, des cultures maraîchères sous des oliviers. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent ces systèmes-là, mais j'aimerais bien en savoir plus. Et puis, un autre thème aussi qui va être abordé aussi cet après-midi. Donc, on parle effectivement de stimuler le retour de matière organique au sol. On peut aussi, en complément de ça, parce que c'est clair, ensemencer un micro-organisme, ça ne servira à rien si on se contente de mettre des micro-organismes sur un sol mort et qui n'ont rien à manger, ça ne servira à rien. Par contre, pourquoi pas coupler un ensemencement? Alors, des ensemencements, il y en a de toutes sortes. On peut ensemencer en mycorhize. Donc là, sur la photo, c'est un spore de champignons mycorhiziens, donc qui vient en symbiose avec les racines des plantes. Et la majorité de nos cultures font ce type de symbiose. Ça peut être des... donc, on va sûrement parler de ces fameux IM, là, dont on parlera cet après-midi, les Effective Microorganisms. Hein, donc là, c'est des Japonais qui ont découvert un ensemble de souches, un mélange de souches qui avait une efficacité particulièrement intéressante. On a des produits commerciaux comme le bactériosol, on a des produits comme le canne aussi, qui est du pain fermenté, donc c'est utilisé comme nourriture en Allemagne. Et puis certains se sont dit, tiens, pourquoi pas l'utiliser aussi comme inoculum. Donc voilà, il y a toutes sortes de produits, il y a les jus de compost activés, voilà. Donc toutes sortes de produits qui peuvent servir à stimuler un peu le réveil biologique d'un sol. Donc voilà, à étudier aussi. Et puis, une autre problématique, donc là qui est directement liée, si on veut renvoyer plein de matière organique, on se retrouve avec un sol qui est encombré de résidus. Donc là, par exemple, c'est un maraîcher américain, là. Donc là, j'ai fait une saisie d'image d'une vidéo qui présente ce matériel-là. Donc là, c'est rye, c'est le seigle. Donc il y a eu un couvert de seigle avant qui a été roulé ou détruit, je sais pas comment. Peut-être à l'herbicide d'ailleurs, c'est possible. Et comment se met là-dedans maintenant? Comment se met dans un sol aussi encombré de résidus? Donc là, on a une énorme litière de surface, on a probablement dessous une énorme litière souterraine, et on a eu, avant destruction de la culture, une énorme réseau d'éposition, donc très intéressant au niveau du cycle, cette histoire-là. Mais là, la problématique du matériel est directement en lien avec toute cette problématique de ramener du carbone. Donc voilà, donc là, on a un exemple de matériel. Il y aura, François va animer un atelier cet après-midi, et même, pour les plus motivés, on va en reparler ce soir pour vraiment approfondir où se trouvent les matériels et comment on pourrait faire pour les mettre à disposition des maraîchers français. Donc ça, c'est ce soir, en après rencontre. Voilà, donc merci pour votre attention. Je pense que j'étais assez bref pour cette petite conférence d'introduction. Voilà, donc si vous avez envie de continuer au-delà de ce colloque à échanger avec moi, il y a un blog Jardinons sol vivant, donc qui est plutôt orienté jardinage, mais il y a aussi pas mal d'agriculteurs qui sont dessus, et on parle de toutes ces thématiques que j'ai évoquées là, sur la vie des sols, sur l'énergie, etc. Sur le carbone, etc. Voilà. Donc bon, là je vais rester donc là jusqu'à encore 10 minutes pour des questions.
Tout à l'heure vous avez parlé de la rhizodéposition, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est ?
La rhizodéposition, c'est vrai que je suis passé un petit peu vite, c'est la sécrétion de matière organique directement par les racines vivantes des plantes. Hein, donc voilà. C'est-à-dire ça peut être souvent des matières très facilement consommables par la fonte du sol, donc des sucres, des bactéries, quelques cellules mortes aussi qui peuvent se détacher de la racine. Hein, donc il y a quand même beaucoup de frottement entre la racine qui pousse et le sol. Donc du coup il y a des racines qui se détachent, hein, ce qu'on appelle la coiffe qui protège l'apex de la racine. Voilà. Donc on a toutes sortes de petits flux comme ça qui composent cet ensemble qu'est la rhizodéposition et qui ramène du coup des matières organiques directement dans le sol du vivant des plantes. Et alors dans certains cas, ça peut monter jusqu'à 80% de la production primaire peut être rhizodéposée. Donc ça paraît énorme. Alors il semblerait, alors il y a une hypothèse qui a été émise par un chercheur du CIRAD de Montpellier, que plus la plante est dans des conditions défavorables, plus elle fait de rhizodéposition pour corriger les défauts du milieu. S'il est trop acide, s'il est trop basique, s'il est trop oxydé, s'il est trop réduit. Voilà. Donc, elle va, avec cette rhizodéposition, elle va corriger le pH, corriger le potentiel redox et éventuellement la concentration en certains éléments de cette manière-là. Voilà, c'est ce qu'on pense. Et puis après, ça permet aussi de nourrir certains organismes. Donc, évidemment, vu qu'on sécrète des matières organiques là, on a énormément de bactéries, de champignons, de nématodes, de protozoaires qui sont là. Et leur activité permet de libérer aussi des nutriments, notamment de l'azote, au voisinage immédiat de la plante. Donc du coup, c'est de l'azote qu'on ne voit jamais à l'analyse. Quand on fait une analyse de sol, on ne voit pas cet azote-là, puisqu'il est pris sous forme organique dans le sol et libéré directement au voisinage de la racine et prélevé par la plante.
La mycorhize, c'est le champignon, c'est bien ça ?
Alors, les mycorhizes sont des champignons, donc ils vivent en symbiose donc, avec les plantes. Donc les mycorhizes, bon, il y a donc un échange. Hein, donc les mycorhizes vont prendre notamment de l'eau, certains nutriments difficiles d'accès comme le phosphore. Bon, le phosphore est difficile d'accès pour la plupart des végétaux. Donc les mycorhizes, par contre, qui ont un mycélium beaucoup plus fin, environ 10 fois plus fin que la racine, peuvent aller donc dans des pores très fins, aller chercher l'eau qu'il y a dedans et aussi les nutriments qui sont dedans. Hein, donc on pense que la mycorhize augmente, multiplie au moins par 10 le volume de sol exploré par la racine. C'est énorme. Hein. Donc elle va chercher de l'eau, certains nutriments, surtout des peu mobiles comme le phosphore ou comme le zinc. Et en plus, elle va stimuler des défenses de la plante. Elle va aider la plante aussi à se défendre contre certains, notamment des champignons pathogènes. Et en plus, elle va structurer le sol autour de la racine. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Et en échange, la plante lui envoie du carbone issu de la photosynthèse. Voilà brièvement le fonctionnement d'une mycorhize, en tout cas des endomycorhizes, qui sont les mycorhizes de la plupart des plantes cultivées.
Est-ce que le sol peut être carencé en mycorhizes ?
Est-ce qu'il peut être, bien sûr. Alors le premier poison, donc là c'est un peu la conséquence de la réponse, de ce que je disais juste avant, c'est que vu que les mycorhizes, un de leurs premiers rôles, c'est d'aller chercher du phosphore. Si vous fertilisez massivement en phosphore, la plante, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle va arrêter de payer sa mycorhize quelque part, donc arrêter de lui donner du carbone. Donc du coup, effectivement, sur les sols qui ont été très fertilisés en phosphore dans les années qui ont précédé, eh bien, on a de gros risques de perdre les populations mycorhiziennes, tout à fait. Après, il y a d'autres facteurs, notamment le travail du sol, hein, qui dilue les spores dans une grande profondeur de sol, notamment essentiellement le labour qui donc pose des problèmes pour les populations de mycorhizes. On a l'utilisation de certains produits chimiques, hein, même de fongicides, même fongicides ou herbicides, même s'ils ne tuent pas directement les mycorhizes, quand même leur usage a tendance à les défavoriser. Et bon, c'est essentiellement ces problèmes-là. Voilà, ces problèmes-là. Et puis après, la jachère aussi, si on abandonne une terre, souvent, sans y remettre tout de suite un couvert végétal, si on la réinsème pas tout de suite sur le plan végétal, elle risque de s'éroder et on peut retrouver des chutes de potentiel mycorhizien après l'abandon de la culture aussi. Donc la jachère, si elle n'est pas gérée avec des plantes, peut vraiment poser de gros problèmes sur les populations de mycorhizes. Donc on a quand même beaucoup de choses qui les détruisent.
Est-ce que la chute de mycorhizes intervient dès l'abandon de la parcelle ou est-ce que ça met quelques mois ?
Oh, ça va commencer dès l'abandon, mais après ça peut être dans les années qui suivent, on va voir la population chuter, quoi.
Ça veut dire que si je laisse ma parcelle nue en hiver, je peux avoir une chute de mycorhizes ?
Non, si c'est juste en hiver, oui, puis bon, vu le sol que t'as, tu vas pas avoir beaucoup d'érosion, toi.
Je parle pas pour moi, je parle en général.
Ouais, en général, oui. Bah, dès qu'on commence à avoir de l'érosion, on commence à voir chuter les populations. Puisque forcément, les spores sont surtout en surface, donc si on commence à perdre la surface, même si c'est sur 1 ou 2 cm, on met à mal les populations de mycorhizes, ça c'est certain.
Comment on les favorise ?
Comment on les favorise ? Par toutes les pratiques que j'ai évoquées juste avant et par tout ce qu'on va entendre là, donc... par les apports de matière organique, par la couverture du sol, la couverture du sol en permanence. Oui, aussi j'oubliais parmi ceux qui gênaient les mycorhizes, c'est la monoculture de plantes non mycorhiziennes. Il y a quelques plantes qui ne forment pas de mycorhizes. C'est une invention récente de la nature qui date de l'ère tertiaire. Donc notamment la famille des brassicacées et la famille des amarantacées, parmi les familles cultivées, ne forment pas de mycorhizes. Donc c'est vrai que si dans une rotation on a régulièrement du colza qui revient, ou pour un maraîcher, des choux qui reviennent régulièrement au même endroit, ou des épinards, ou des betteraves, mais effectivement, on peut avoir une perte de population mycorhizienne. Donc du coup, à partir du moment où on a dans les rotations beaucoup de plantes mycorhiziennes, et où on couvre le sol en permanence, et on a le plus possible de plantes vivantes sur le sol, ben, ça va revenir. Après, bien sûr, on peut l'accélérer en ensemençant, pourquoi pas. Voilà. Pardon ? Mais ça, c'est des trucs qui se trouvent dans le commerce, on trouve des spores dans le commerce pour ensemencer les parcelles. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette symbiose-là, c'est un peu pour la petite histoire, cette symbiose endomycorhizienne, elle est apparue, on pense, il y a 450 millions d'années, lorsque les plantes ont commencé à coloniser les espaces continentaux. On pense que les plantes n'auraient jamais pu coloniser les espaces continentaux. Et si on regarde les structures cellulaires, on a des fossiles extrêmement bien conservés en Écosse là-dessus notamment, donc une plante qui avait pas de racines et qui était connectée à des filaments mycéliens. Et quand on regarde les structures cellulaires, ce sont exactement les mêmes que les mycorhizes actuelles. Comme quoi cette structure-là, elle a 400 millions d'années, elle n'a quasiment pas évolué. C'est probablement une des plus grosses inventions de la nature, en tout cas qui a eu un succès depuis 400 millions d'années, ça fonctionne. Et aujourd'hui encore, même si la nature a inventé d'autres types de mycorhizes plus efficaces, et pourtant, celle-là, c'est encore 85% des végétaux qui forment cette symbiose-là. C'est assez énorme.
À la suite des engrais verts, on risque pas d'avoir un manque de potasse ou de phosphore ?
Vous ne risquez pas de carencer le sol, en aucun cas. Parce que vous restituez tout au sol. Donc la plante prélève, vous restituez la plante entièrement au sol. Donc il n'y a aucun danger, disons, de le prendre au sol. Après, est-ce qu'il peut y avoir une immobilisation momentanée ? Au niveau potasse-phosphore, pas à ma connaissance, il peut y avoir un souci au niveau de l'azote. Notamment, typiquement, si on avait, comme sur la photo, là, on voit là une paille de seigle. Là, effectivement, une paille de seigle, si on la laissait aller après la floraison, on va commencer à avoir quelque chose de très ligneux qui risque effectivement de faire une immobilisation d'azote. Là, c'est vrai. Mais c'est surtout vrai pour les graminées et si on les a fait dépasser le stade floraison.
Au sujet du phosphore, si je peux permettre d'ajouter quelque chose, il y a même certains couverts, notamment le sarrasin, qui ont des exudats acides au niveau de leurs racines et qui permettent de libérer du phosphore minéral et le rendre du phosphore qui ne serait pas disponible au métabolisme des plantes et qui, par ces effets de solubilisation qui se passent au niveau des racines, justement, rendent du phosphore disponible. Donc, ils n'en créent pas, mais ils le rendent biodisponible pour la culture suivante. Donc, il y a tout un tas de couverts végétaux qui sont importants pour la libération de certains éléments qui sont déjà dans le sol, donc on peut en rajouter au risque de déranger les mycorhizes, alors que tout naturellement et en douceur, on peut les faire libérer de ce qui est déjà sur les terres. D'où l'importance de la diversité des cultures et des rotations, mais aussi des couverts.
Voilà, donc là, je crois que là, il est 10h20, donc je vais laisser la parole à Bernard.